Voilà, donc c'est vrai que le temps avance, mais on veut quand même prendre le temps justement autour de la parole, voir ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Donc, on va continuer dans ce thème annuel que nous avons de restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres. Et nous sommes dans ce temps maintenant de comprendre comment restaurer notre relation avec les autres. Et ce matin spécialement, on va continuer avec les membres de l'Église, comment on va mettre en action. Donc, tout à l'heure, notre frère parfait va nous le donner. Des actions concrètes que nous devons faire aussi pour justement mieux restaurer notre relation, pouvoir vivre dans ce que le Seigneur veut nous dire les uns avec les autres. Donc, prochain dia, on a lu il y a, depuis quelques semaines à travers la Pâque, mais aussi avant, beaucoup de thèmes sur l'amour, l'amour les uns les autres. Jean chapitre 15, versets 12 et 13. Jésus, quelque temps avant d'être crucifié, rappelle cette parole importante à ses disciples. Jean chapitre 15, versets 12 et 13, qui dit: Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. On a vu comment que justement le Seigneur, la semaine passée, à travers la Pâque, à travers la crucifixion, comment que cet amour a été suprême de Jésus-Christ, a été prêt d'aller jusqu'au bout, d'aller sur la croix pour mourir, pour nous donner la vie. Et il veut aussi que cet amour, nous puissions aussi le donner, le partager autour de nous. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'amour les uns pour les autres. L'amour, ce n'est pas simplement juste d'avoir du respect, d'avoir de la fraternité les uns avec les autres, mais c'est de vraiment de vivre concrètement ce que Jésus a fait. Il était prêt à se sacrifier pour nous. Est-ce que nous sommes prêts aussi à se sacrifier les uns pour les autres? Nous avons donc une valeur essentielle dans notre Église qui est la famille. Et nous voulons justement que vivre vraiment cette relation de famille, de pouvoir, comme une famille biologique, de pouvoir nous aimer, de nous entraider, de nous encourager fur et à mesure. Pas juste le dimanche matin lorsqu'on est en présence du Seigneur les uns avec les autres dans la célébration, mais durant toute la semaine, quel que soit où nous sommes, dans notre travail, dans nos familles, dans nos voisinages, qu'on puisse justement nous encourager à nous aimer les uns les autres. On a besoin peut-être de rapprendre, parce que c'est vrai qu'on le fait, mais on sentait qu'en tant que comité officiel de l'Église, qu'on sentait qu'on avait besoin d'aller un peu plus en profondeur et de vraiment mettre en pratique jour après jour cet amour les uns pour les autres. Willy Dustin disait justement par rapport à l'importance de cette dualité ou cette complexité que nous avons dans notre amour les uns pour les autres dans l'Église. Il dit: La parole de Dieu aborde de manière claire, pertinente et appropriée la question de cette tension qui existe entre le désir qu'ont les gens de vivre des relations authentiques et leur incapacité à les maintenir durablement. Donc, il a vu comment que, oui, la parole de Dieu, elle nous encourage, mais elle sait aussi, en même temps aussi, les difficultés. Voilà pourquoi que plusieurs fois, nous avons ce thème, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous, si vous êtes mes amis, je vous commande de vous aimer les uns les autres. Donc, on le voit comment que c'est un rappel régulier de ce que le Seigneur veut pour nous. La semaine passée, donc la dernière fois, il y a 15 jours, on avait vu justement que ça doit commencer par être vrai, chacun de nous, pour qu'on puisse vraiment l'importance de partager qui nous sommes. Et nous avions vu 4 points. Le premier, en étant vrai, nous permettons aux autres de nous connaître. Hein, c'est un principe de base, mais qui est essentiel. Si nous ne sommes pas vrais avec les autres, c'est-à-dire que si nous essayons de projeter une image qui n'est pas réelle, on essaie de montrer les bons arguments de nous, le bon caractère, le bon tempérament de nous, mais on ne montre pas forcément qui nous sommes réellement à tous les jours. Ça montre une mauvaise image et ça va être difficile que les gens vont pouvoir vraiment s'approcher de nous. Et le deuxième point, en étant vrai, nous permettons aux autres de nous aimer. Lorsque nous sommes vrais, lorsque nous sommes même vulnérables dans nos difficultés, dans nos défauts, ben ça permet aux autres de nous aimer tel que nous sommes. Et c'est vrai que c'est plus facile d'aimer une personne qui est vraie, qui est authentique, qu'une personne qui démontre juste qu'elle a des bons côtés, qu'elle est formidable, qu'elle a tout est positif. Mais on a besoin justement, quand on est authentique, de pouvoir prier justement aussi pour elle. C'est le troisième point qu'on voit, nous permettons aux autres de prier pour nous. Lorsqu'on est vrai, lorsqu'on est authentique, lorsqu'on permet aux autres de nous aimer, alors on a à cœur de pouvoir prier aussi pour ces personnes, pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur donner, les mettre devant le trône céleste et de pouvoir prier, intercéder pour leurs besoins, leur situation. Et le quatrième point, en étant vrai, nous permettons aux autres de nous aider. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes humbles dans nos faiblesses, dans nos luttes, alors celui qui est assis à côté de nous peut réellement nous aider, nous soutenir afin de permettre d'avancer jour après jour. Donc, regardons maintenant le prochain dia. Comment continuer de restaurer notre relation avec nos frères et sœurs dans l'Église, dans l'action et concrètement. Ouvrons notre Bible dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8, qui dit: « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve et à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, à l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous permettront, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, on voit dans ce verset 5 que Pierre nous encourage à pas simplement avoir la foi en Jésus, mais de la mettre en pratique à travers des actions, que ce soit pour nous aussi envers les autres. Donc, on a pu voir dans le verset 5, il est parlé de la force de caractère, ou dans certaines traductions, de mener une vie honnête. Nous savons ce que ça veut dire, de vivre une vie honnête, une vie juste, pour représenter aussi le Christ. Il est parlé de la connaissance, de continuer de connaître de mieux en mieux Christ à travers sa parole, à travers les prédications, à travers les enseignements, les temps de partage, pour que nous puissions mettre cette connaissance aussi ensuite dans la pratique. La maîtrise de soi, c'est-à-dire de pouvoir se contrôler devant les situations, même les difficultés, ou peut-être même les épreuves, pour que dire: « Seigneur, je reste calme, je reste dans la patience, dans la foi devant cette situation. » La persévérance ou l'endurance dans l'épreuve. Il nous est appelé, hein, que oui, on va vivre des temps difficiles. Il nous est encouragé à persévérer, à endurer, même dans les temps d'épreuve. Et le cinquième point, la piété ou l'attachement à Dieu, de continuer de grandir dans cet attachement de Dieu, de vouloir vraiment approfondir notre relation avec le Seigneur. Donc, ces cinq points sont à travailler pour nous, afin de nous permettre d'être changés, transformés en nous-mêmes, et par la suite, ça puisse avoir un impact vers les autres. On peut essayer par nous-mêmes d'essayer d'avoir ces qualités, d'essayer par nous-mêmes de faire de ce qui est proposé. On peut le faire, mais à un moment donné, on ne risque pas d'être vrai, dans le sens qu'on n'arrivera pas à le faire réellement. Si le Saint-Esprit ne vient pas nous travailler avant, si le Saint-Esprit ne nous conduit pas justement à être vrai aussi dans ces qualités, dans ce travail que nous faisons jour après jour. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Il faut laisser le Saint-Esprit nous transformer afin qu'on puisse devenir une nouvelle personne en lui et que ses qualités, comme il était dit dans ces versets, puissent progresser, puissent se fructifier pour que nous puissions continuer d'être un témoin fidèle du Seigneur. Un peu comme aussi le potier qui fait avec l'argile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu le potier, quand il prend l'argile au début pour essayer de faire une forme, il a besoin de travailler cette argile parce qu'au début, l'argile est un peu dure. Et à force de le façonner, de le tourner, il est capable de devenir un peu plus mou. Et là, il est capable de faire une forme, d'une forme. Et bien des fois, le potier a besoin de se reprendre plusieurs fois parce qu'il commence à faire quelque chose, d'un coup, hop, tout se casse. Et il reprend, il recommence au début jusqu'à arriver au résultat qu'il veut faire. Le Seigneur, c'est la même chose avec nous. Le Seigneur est patient pour nous aider à continuer de marcher avec lui, de continuer de nous changer, de nous transformer pour devenir un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. On voit dans aussi le prochain dia, dans les deux termes du verset 7, qui sont aussi à développer et à pratiquer vers les autres principalement. L'affection fraternelle, on sait ce que c'est l'affection, c'est l'amour, l'affection que nous avons les uns avec les autres et l'amour aussi que nous produisons aussi. Donc, comme on a dit, l'amour, ce n'est pas juste de se respecter ou de s'aimer ou de faire quelque chose comme on peut le faire, par exemple, le dimanche après le culte. mais c'est d'aller beaucoup plus loin, d'avoir une affection pour la personne pour dire, même si elle passe par des temps difficiles, je veux l'accompagner. Même si je sens qu'elle vit des choses qui sont pas, qui sont difficiles pour elle, peut-être un problème financier, peut-être un problème avec sa famille, ses enfants, je vais la soutenir, je vais prier, je vais l'entourer pour continuer de l'aimer, continuer de lui montrer que je suis avec elle. Jean 13, verset 35, on connaît bien, hein? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on voit que ce n'est pas seulement pour nous qu'on fait entre frères et sœurs dans l'Église de nous aimer les uns les autres, mais à travers ce que nous allons faire, les gens vont voir réellement que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment cet amour entre les frères qui va conduire les gens vers le Seigneur. Alors, on peut manifester justement notre amour les uns les autres en donnant de notre temps, de notre talent, de nos dons, de nos biens, ainsi que notre vie pour l'autre. Et il le dit justement au prochain diable dans le verset 7, dans le verset 8 plutôt. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8. Si vous possédez ces qualités, ces grandissent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les développe, c'est-à-dire qu'on doit continuer de les encourager, continuer à les porter, à les travailler jour après jour. Elles nous rendront actifs et nous permettront de connaître toujours mieux le Seigneur. Donc, on voit dans ce verset deux choses importantes. Elles nous rendront actifs, dans le sens que nous ne resterons pas les mains je dirais, croisées à rien faire, mais qu'elle va nous permettre d'avancer, de grandir en nous, mais aussi vers l'autre. Et la deuxième partie nous dit aussi qu'elle nous fait nous permettre de connaître de mieux en mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le fait qu'on aide les autres, le fait qu'on aime aussi les autres personnes autour de nous, dont les frères et sœurs dans l'Église, nous permet de grandir notre relation, parce que le fait d'aider quelqu'un va nous encourager à continuer d'être avec elle, à l'aimer et à continuer de déverser l'amour de Dieu sur elle. Je me rappelle comment que lorsque je travaillais parmi les jeunes de rue, je me disais, ben, je suis là, moi, pour apporter l'amour de Dieu. Les jeunes de rue, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'attention, mais moi, je ne voyais pas forcément que moi, je pouvais être béni à travers eux. Mais fur et à mesure que je travaillais avec eux, fur et à mesure que je prenais du temps à les aimer, à les comprendre, je voyais comment que ma relation avec Dieu grandissait. Je voyais comment que le Saint-Esprit pouvait m'éclairer pour dire, ben oui, eux, ils ont aussi quelque chose à m'apprendre. Ils ont quelque chose à m'apprendre. Pas croire que je suis supérieur à eux, mais que j'ai aussi besoin de pouvoir converser, de pouvoir aussi, qu'ils puissent aussi, eux aussi, m'aimer et qu'ensemble, on puisse grandir dans le Seigneur. Le prochain dia, on a pu le voir dans la dernière fois, dans Galates chapitre 6, verset 2. Prochain dia. Galates chapitre 6, verset 2, qui dit: Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Donc, on avait vu la dernière fois comment que on doit aider à porter les fardeaux. Les fardeaux, ça peut être les manquements, ça peut être les tentations, les épreuves, les afflictions. Donc, le verbe porter implique que nous aidons l'autre à porter, à supporter ce fardeau. Comme porter avec lui, comme si on portait un sac au lieu de le porter à une seule personne, un sac très lourd sur notre dos, mais on le porte à deux pour permettre d'alléger, puis de permettre d'avancer les deux. On l'aide à surmonter par nos encouragements, par nos prières, notre support jour après jour. Voilà pourquoi l'importance, en tant qu'Église, en tant que membre, en tant que frère et sœur dans le Seigneur, de pas juste de supporter ou de porter des fardeaux, juste des paroles, pour dire, mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi, puis toute la semaine, je fais autre chose, puis je ne pense plus à elle. Mais de dire, qu'est-ce que moi, je peux aider, supporter cette personne? Comment je peux aider à porter ce fardeau qu'elle vit? Comment que je peux l'aider à continuer de marcher avec le Seigneur? Le prochain dia, donc, l'année passée, vous avez vu que le comité officiel, donc, a présenté un plan de ministère. Hein? Donc, un plan de ministère, comme il est dit un peu sur l'écran, c'est un plan stratégique réfléchi et empreint de prière. Il énonce l'orientation que vous voulez prendre au cours des prochaines années, les mesures précises que vous prendrez pour atteindre ces orientations et le budget nécessaire pour appuyer ces activités. Donc, on a cru important de faire un plan de ministère pour dire où est-ce que l'Église est, qu'est-ce que l'Église veut faire dans ces prochains temps, comment est-ce que nous allons mettre en action la mission que Dieu nous donne. Et justement, un des valeurs essentielles de notre Église, c'est la famille, où chacun a sa place et peut développer des amitiés durables. Et nous voulons justement, à travers cette valeur essentielle de la famille, de continuer de nous supporter les uns les autres, de continuer de grandir dans ce lien fraternel les uns les autres, pour pouvoir montrer que nous ne sommes pas juste des amis quand ça va bien ou quand on se rencontre, mais qu'on peut s'aider, se supporter aussi lorsque on ne se voit pas forcément. Et justement, prochain dia. Un des objectifs de cette valeur famille est le domaine de la fraternité. Nous avons senti qu'on avait besoin, dans le cadre de cette valeur famille, de développer le côté de la fraternité. Donc, voici ce que nous avons mentionné en rapport avec la fraternité. Nous sommes membres du corps de Christ et nous devons nous préoccuper les uns les autres, de vivre la communion fraternelle telle que nous l'enseigne la première Église, comme on voit dans Actes 2, chapitre 2, versets 41 à 47. Alors, on avait écrit quelques points de ce que nous faisons. On a réfléchi et on dit, voici ce que nous faisons déjà à l'Église. Communion fraternelle lors des célébrations dominicales et dans d'autres activités, comme on le fait hein, après le culte, on prend un temps de café ensemble. Tout à l'heure, on va pouvoir le prendre aussi avec une petite surprise aussi. Visite chez des personnes, hein, visite où on peut aller visiter une personne qui est malade ou qui n'est pas bien. Téléphone aux membres, pouvoir se téléphoner. S'écrire des WhatsApp, des petits messages pour dire, ben, écoute, je tiens à toi, puis je prie pour toi, ou comment tu vas, etc. Visite dans d'autres églises, donc nous avons aussi l'occasion de visiter, comme nos amis de Jemien, visite différentes églises. Nous avons aussi l'occasion de visiter, comme on l'a fait aussi dernièrement, l'année passée aussi, à Québec, nos frères et sœurs de Québec. Accueil des églises et missionnaires, ben, comme on le fait aussi aujourd'hui, de pouvoir aussi accueillir des personnes pour pouvoir aussi les encourager à faire partie de cette grande famille du Seigneur. Alors, il y a des points que nous faisons régulièrement et que d'autres, ce n'est pas forcément quelque chose de régulier, même si on voit qu'on le fait, mais pas forcément d'une façon régulière. Ensuite, justement, le comité, qu'est-ce qu'il a fait, prochain dia? Il s'est dit, ben, voici ce que nous faisons, mais maintenant, voici les défis. Voici ce que peut-être qu'on a besoin, qu'on voit comme défi actuel. Alors, on a vu que les visites les uns les autres ne sont pas régulières, malgré les encouragements du pasteur. Hein. Combien de fois je vous ai dit, je vous encourage, allez vous visiter, allez prendre un temps d'aller visiter une personne, même si elle n'est pas forcément malade ou pas bien, mais simplement pour mieux nous connaître. On a vu que c'est difficile. Le contexte actuel que nous vivons ne favorise pas les relations fraternelles. On a des fois le défi professionnel, familial. C'est vrai qu'on est tellement occupé que quand on rentre le soir, ben on est tellement fatigué, on a encore aidé les enfants à faire les devoirs, à faire à manger, etc. Donc, on n'a plus vraiment le temps de pouvoir encore aller visiter encore des personnes. On voit aussi le défi, le contexte culturel est différent selon la provenance des personnes. Les gens peuvent s'inviter chez une personne sans l'avertir, ce qui est plus difficile ici. C'est vrai que quand je suis arrivé ici il y a en 95, ce que je trouvais bien par rapport à notre d'où je viens à la Suisse, où en Suisse, il faut toujours téléphoner, puis il faut faire des rendez-vous comme 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'avance pour être sûr qu'on va pouvoir se voir. Ici, je voyais qu'on pouvait facilement s'inviter les uns les autres, puis on pouvait débarquer chez quelqu'un sans avertir, puis que s'il était là, ben, nous accueillait, puis on passait du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, il faut plus quand même avertir. Mais c'est vrai que selon les cultures d'où nous sommes, ben, c'était normal d'aller visiter quelqu'un, une famille ou un ami, sans forcément l'avertir. Mais ici, des fois, on a besoin de plus de prendre de rendez-vous et des fois, ça peut empêcher de faire ces visites. Notre société encourage l'individualisme, de rester chez soi, de ne pas déranger l'autre. Hein. On le voit comment que, non, non, il faut faire attention, il ne faut pas déranger, il est fatigué, etc. Et on fait que, qui fait qu'on rentre aussi dans cette façon de faire et on oublie de prendre soin des uns les autres. Donc, on voit que ce n'est pas forcément évident. Même sur le point qu'on devrait être assez facile de justement de se visiter, de se téléphoner comme on devrait le faire. Donc, d'où l'importance de permettre de mettre en action des démarches qui vont nous aider à restaurer cette fraternité, de la développer, de la vivre réellement pour que ça puisse avoir un impact, premièrement, sur nous, mais aussi autour de nous, puisqu'il est dit que à l'amour que nous allons avoir les uns les autres, les gens verront que nous sommes ses disciples. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis justement les objectifs, les prochaines étapes. On a dit, ben, voici ce que nous faisons, voici les défis que nous avons actuellement, mais voici nos objectifs. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et voici quelques points que nous avons marqués. Créer un lien de fraternité et un environnement favorable à la rencontre avec Dieu. Créer ce lien fraternel pour permettre justement de se connecter, de pouvoir s'encourager, de pouvoir peut-être avec un nouveau chrétien dire, ben écoute, une fois par semaine, je vais venir 1 heure chez toi, puis je vais lire la parole avec toi. Ou peut-être je vais prier avec toi pour t'encourager parce qu'à deux, c'est beaucoup plus facile, on s'encourage les uns les autres. De nous sensibiliser aux différentes culturelles afin de vivre ce lien familial. C'est vrai que selon les cultures d'où on vient de différentes cultures, ce n'est pas toujours facile de comprendre l'autre. Alors en allant chez la personne, en ayant un contact régulier, on peut dire, ben, montre-moi c'est quoi ta culture, montre-moi c'est quoi tes habitudes. Et comme ça, je peux aussi peut-être les développer. Et comme ça, je peux aussi mieux comprendre comment partager les uns avec les autres. Encourager les membres à se visiter les uns les autres pour vivre une redevabilité. Dans le sens qu'on vient redevable les uns les autres. On ne vient pas simplement dire, ben, écoute, oui, je suis content d'être ton frère et ta sœur dans la foi le dimanche matin. Mais je veux être redevable aussi envers le Seigneur parce que je te supporte, parce que je te porte dans mon cœur. Je porte avec toi les fardeaux. Je t'encourage dans les défis que tu vis jour après jour. Encourager à faire des visites pour des événements, naissances, décès ou selon les besoins rencontrés, soit seul ou en petit groupe. On a commencé à le faire régulièrement lorsque peut-être qu'il y a un décès dans notre famille. Ben les gens viennent visiter avec quelques personnes pour simplement entourer cette personne, prier pour elle, l'encourager dans ce défi. Ça peut être aussi la naissance, un moment joyeux. Ça peut être simplement dire, ben, quelques personnes, ben, on dit, ben, on va aller voir telle personne une semaine pour aller simplement être là avec elle. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas forcément accomplir tous ces objectifs. Voilà pourquoi que nous avons réfléchi en tant que comité de cibler peut-être un ou deux objectifs et développer ces points d'une façon régulière. Parce qu'on s'est dit, ça ne sert à rien de présenter tout ce qu'on aimerait faire rapidement, puis que les gens ont essayé de le faire au bout de peut-être quelques semaines après, ils sont découragés. Donc on s'est dit, c'est mieux de pouvoir cibler un ou deux besoins et de pouvoir continuer d'en parler régulièrement afin que ça devienne comme une habitude. Les prochains dias, regardez qu'est-ce qu'il est dit dans la suite du verset que nous avons lu. 2 Pierre chapitre 1, versets 9 à 11. 2 Pierre chapitre 1, versets 9 à 11. Ce sont donc les versets suivants que nous venons de lire avant. Car celui qui à qui elles font défaut, donc c'est-à-dire ces qualités qu'ils ont énumérées dans les versets auparavant, est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés, choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous serez grand ouvert, ainsi vous serez grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On a vu dans le verset 8 justement que toutes ces qualités, si elles se développent en nous, elles nous rendront actifs avec un beau témoignage de l'action de Dieu en nous. Et ensuite, dans le verset 8, on a vu aussi que ça va nous permettre de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, de continuer d'approfondir notre relation avec Dieu. Mais dans le verset 9, Pierre va dire le contraire, que si ses qualités ne se développent pas, alors il est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il dit même dans la suite du verset qu'il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. On se rappelle justement que la semaine passée, on a fêté. Mais même si on fait peut-être d'une façon un peu plus spéciale, une fois par année, de se rappeler que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous. Il nous a purifiés de ses péchés. Il nous a donné la vie à travers son sacrifice. Et on ne doit pas oublier que c'est uniquement par cette grâce que nous sommes sauvés. C'est pour ça que nous avons besoin toujours d'être aussi redevables envers le Seigneur, dire Seigneur, ce que tu me demandes de faire, tu m'as tellement donné, ce que tu me demandes de faire, je vais pouvoir le faire aussi envers toi et aussi vers les autres. Pierre démontre que si nous sommes réellement les enfants de Dieu, sauvés par grâce et par amour par notre Seigneur, il faut mettre en action ces qualités. Et dans le verset 10, Pierre nous démontre que nous sommes appelés et choisis par Dieu. Non pas parce que nous sommes des meilleures personnes ou que nous avons de meilleures qualités, mais uniquement par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit que nous sommes choisis. Nous devons redoubler d'efforts pour vivre selon le plan de Dieu pour nous, selon sa volonté, afin de porter du fruit pour la seule gloire de notre Seigneur. Donc, de redoubler d'efforts afin de réaliser ce que Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres, de nous soutenir dans la famille de Dieu. Et il est comme il est mentionné dans le verset 10, que si nous agissons de cette façon, alors nous ne tomberons jamais. Dans le sens que si nous accomplissons pas ces qualités qui sont mentionnées dans ces versets que nous avons lus, alors nous allons tomber. Nous serons comme des aveugles. Nous oublions que nous avons été graciés et que nous avons été aimés par Jésus en premier, qui nous a tout donné sur la croix. Et la belle promesse du verset 11 peut se réaliser. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons tous que le Seigneur, lors de son retour, ou lorsque nous serons avec lui, devant lui, puisse nous dire de rentrer dans ce royaume parce que nous avons obéi à ses commandements et que nous avons mis en pratique envers notre prochain, envers nos frères et sœurs de l'Église. Alors regardons ce que nous allons proposer, comment nous allons mettre en pratique ce domaine de la fraternité. Alors notre frère parfait va venir nous l'expliquer concrètement, qu'est-ce qu'on désire faire, nous encourager à mettre l'amour les uns envers les autres à travers la fraternité.
Je vous remercie. Donc, comme le pasteur a dit, nous avons eu à réfléchir au niveau du comité officiel parce que, en fait, la première qualité d'une église, c'est qu'il faut qu'il y ait la fraternité. Et quand on lit dans Actes 2, on voit un peu comment les premiers disciples étaient. La Bible dit qu'ils étaient la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ça, c'est biblique. Ce n'est même pas nous qui le disons. Donc, c'est comme ça que la première église a fonctionné et nous avons vu l'impact que la première église a eu. On s'est dit donc, il faut que cela, ça marche. C'est vrai que l'évangile que le Seigneur a prêché, j'aurais dit, au fil du temps, il a été, pardon, comme érodé, il y a eu un peu de l'érosion et puis on change les choses parce qu'on veut le contextualiser. Mais le problème, c'est que quand on veut le contextualiser, il ne porte pas le même fruit, puisque c'est la vérité. Il faut qu'on respecte cette vérité. Si dans une communauté, les gens ne sont pas frères et sœurs, ce n'est pas une communauté. C'est peut-être un club d'amis, c'est peut-être un groupe de promotion d'élèves, mais ce n'est pas une communauté. Si ce point n'est pas réglé, c'est compliqué. Donc, la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on peut. Parce que si on ne pouvait pas, le Seigneur n'allait pas dire de faire. La question, c'est comment on fait. Voilà, donc il faut qu'on ait cette mentalité-là. Comment on fait, indépendamment des cultures, comment on fait pour que nous nous sentions comme frères et sœurs dans la communauté que nous fréquentons. Donc l'objectif, en fait, c'est encourager les personnes à se sentir membres d'une famille. On veut que à Saint-Henri, on se sente membre d'une famille. Mais comme je dis, c'est pas facile, c'est l'objectif à atteindre. Qu'est-ce que on peut faire pour cela? On a mis beaucoup de choses. Communion fraternelle lors de la célébration et dans d'autres activités. C'est-à-dire que quand on vient au culte ici les dimanches, par exemple, avant le culte, il faut qu'il y ait des interactions. Après le culte, il faut qu'il y ait des interactions. On ne peut pas venir dimanche, on rentre, on s'assoit sur sa chaise, on finit le culte et puis on sort. Ça, comme je dis, c'est quand on va à un séminaire, mais des choses comme ça. Même dans le monde, il y a le réseautage, on parle du réseautage. Même dans le monde, on parle du réseautage. À plus forte raison à l'église. Il faut qu'on puisse échanger entre nous. Et donc, l'indicateur, on a mis comme des indicateurs, des résultats, des choses qui vont nous permettre de nous rendre compte que ça marche ou ça ne marche pas. Donc, l'indicateur des résultats ici, ça va être l'engouement des gens à fraterniser. Et quelle cible on veut? C'est-à-dire qu'on veut que pour cette année 2024-2025, il y ait moins de trois personnes seules sans interaction. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire que si on finit le culte, on va regarder la manière dont les gens sont. Et si on voit qu'il y a trois personnes qui sont seules, puis qu'il n'y a pas la personne, ça dit que ces personnes ne trouvent pas le besoin ou bien ne se sentent pas à l'aise d'aller communiquer avec les autres. Et si on remarque ça, c'est que ce n'est pas une famille. Parce que dans une famille, normalement, on doit se parler. Si dans une famille, chacun s'assoit dans son coin, chacun est sur sa tablette, c'est compliqué. Même si on est dans le monde des tablettes. Donc, c'est des choses qu'on va regarder à la fin du culte. On va regarder et comment les gens sont. Est-ce que les gens sont en train de parler? Ou bien est-ce qu'ils sont chacun dans son coin, chacun sur sa tablette? Ah, j'avais eu des messages. Ok. Il faut que je regarde les messages que j'ai eus. Ah, okay. Et puis après, on sort. Si c'est comme ça, ce n'est pas bon. Donc, les gens vont regarder ça. Et puis, faire les remarques. Dire un tel dimanche, on a vu qu'il y avait quatre personnes seules. Donc, il faut qu'on corrige ça. On va s'approcher de ces personnes-là et dire, mais pourquoi après le culte, tu es resté seul comme ça? Tu n'avais pas des gens à qui parler? Qu'est-ce qui a fait que tu es resté seul après le culte? Pourquoi tu n'as pas, tu t'es pas approché? Je ne sais pas de saluer. Je ne dis pas, c'est pas juste de saluer. Bonjour, ok, salut, on fait ça nous tous. Vous allez voir qu'à la fin du culte, tout le monde se salue. Hein, se salue. Maintenant qu'on a fini de se saluer, qu'est-ce qu'on fait après? Souvent quand on finit de se saluer, maintenant chacun est dans son coin. Peut-être qu'il va aller chercher un café, boire son café, jusqu'à ce que le culte finisse et puis s'en va. Mais ça, il faut qu'on corrige ça. Donc ça, c'est. Il faut qu'on ait moins de trois personnes seules. C'est-à-dire que s'il y a deux, c'est acceptable. S'il y a un, s'il y a zéro, c'est mieux. Mais si on trouve trois personnes après le culte qui ne parlent à personne, c'est pas bon. Ouais, non. Donc c'est ça qu'on appelle, ça c'est la cible qu'on veut atteindre. L'autre point qu'on a mis comme activité, c'est les téléphones aux membres. Bon, ça normalement ici c'est plus facile. Ici c'est la chose la plus facile. De là où nous on vient en Afrique, c'est compliqué parce que pour appeler, il faut avoir des unités. Il faut charger le téléphone. Ici, c'est des abonnements mensuels. Donc, dès que ton téléphone est chargé, il n'y a plus de problème. Donc, normalement, ça doit être la chose la plus facile. Ce point-là, normalement, on doit avoir un 100%. On doit avoir 100%. Et c'est le nombre de téléphones. Comment on va le mesurer? On veut qu'il y ait au moins 6 personnes qui s'appellent par semaine. C'est-à-dire que moi, j'appelle un appelle un autre. Il faut que ça fasse au moins 6. Au moins 6. Donc, on va le vérifier. Si ça ne fait pas 6, si c'est juste deux personnes qui appellent, ce n'est pas correct. Il faut corriger. Il faut corriger. Parce que dans une famille, on doit se préoccuper les uns des autres. Ah, mais je ne t'ai pas vu où tu es parti, ou si ça ne va pas bien. Donc, il faut qu'on s'appelle pour prendre des nouvelles. Ouais. Il ne faut pas appeler les gens qui t'appellent. Il ne faut pas que moi j'appelle Jeanne. Parce que si tu appelles Jeanne, ça ne change rien. Jeanne, c'est. Si c'est l'appel, ça ne veut pas dire qu'on fraternise. Puisque je suis habitué. Donc, il faut appeler ceux que tu n'appelles pas d'habitude. Ceux que tu n'as pas l'habitude d'appeler, c'est eux que tu appelles pour qu'on voit. Et vous aussi, acceptez de recevoir les coups de feu. Parce que si on t'appelle, il ne faut pas être froid. Oui, ça va. Ouais, ça va. Ok, merci. Au revoir. Si tu te comportes comme ça, la personne peut-être qui a fait un effort, j'allais dire surhumain pour t'appeler, sera découragée d'appeler la deuxième personne. Dit, oh, c'est compliqué. J'ai appelé, la personne ne m'a pas reçu avec engouement. Donc, la personne va risque d'être un peu froid pour appeler les autres. Ensuite, les visites. Ouais, les visites. Ça, c'est peut-être le côté un peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Trois fois le nombre de visites. On a mis quatre personnes qui se visitent par mois. Ok, là, on a mis par mois, vous voyez, donc ça fait comme une par semaine. Parce qu'on sait que c'est un peu compliqué. Mais il faut qu'on y arrive à se visiter, à décider d'aller visiter un tel frère ou une telle sœur. C'est important. Et puis, bon, l'autre, c'est le dynamisme entre les églises, ça, ce n'est pas un programme personnel, c'est un programme que nous, on va faire au niveau de nous ici. Donc, ça, c'est la communauté qui va le voir. Et puis, le dernier point, c'était le dynamisme des échanges dans les cellules. Il faut participer aux cellules, il faut assister aux cellules, et puis, il faut arriver à le faire. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on a fait. Et le responsable de ce comité-là, c'est le frère Antoine. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il vous appelle pour vous demander, mais cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as visité? Est-ce que tu as appelé? Donc, s'il vous appelle, ne soyez pas étonné parce que c'est lui qui est en charge de ce comité. Donc, il va appeler les gens pour dire, mais la semaine, qui tu as appelé, qui tu as visité. Donc, c'est lui qui va voir à quel rythme il faut faire. Et puis, on va le faire. La sœur Jeanne, normalement, dans la semaine, va nous envoyer un fichier où il y a les numéros de tous les membres. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on ne connaît pas les numéros. Donc, on va recevoir sur WhatsApp les numéros de tous les membres. Et puis, on nous encourage à vivre la communion fraternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Merci beaucoup. Voilà. Donc, ce sont des choses concrètes qu'on aimerait développer. On ne va pas faire la police, mais dans l'idée qu'on va nous encourager au début. Et puis, petit à petit, ça va venir comme une habitude, je crois. Puis, on va s'encourager les uns les autres. Alors, prions. Seigneur, on te remercie pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui de voir concrètement comment est-ce que nous pouvons partager les uns les autres. Comment, Seigneur, pouvoir nous aimer d'une façon concrète. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous dépasser, à faire cette, à de redoubler d'efforts, comme tu le dis de ta parole, afin de, Seigneur, de développer ces qualités en nous, de développer, Seigneur, ce désir de pouvoir connaître mieux mon frère et ma sœur, de pouvoir l'aider, la soutenir, Seigneur, dans les temps difficiles, de pouvoir porter les fardeaux qu'elle a aussi avec elle. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu nous as placés ensemble dans une église afin que nous puissions nous aider, nous encourager les uns les autres. Et nous voulons, Seigneur, de le faire d'une façon régulière, afin que le monde voie que nous sommes tes disciples à l'amour que nous avons les uns les autres. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider, nous éclairer à comment aimer réellement celui qui est à côté de nous. Seigneur, toi, tu nous as aimés d'un amour tellement grand, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour nous donner la vie. Encore aujourd'hui, ton esprit est en nous pour nous aider à grandir. Seigneur, on veut que te remercier, te louer pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons aussi maintenant pouvoir aussi l'apporter autour de nous. Alors je te prie que Seigneur, chacun de nous, là où nous sommes, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique ces paroles et que Seigneur, ça puisse nous encourager à continuer d'être un témoin fidèle de toi dans tout ce que nous vivons jour après jour. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bénis chaque personne, Seigneur, et que Seigneur, nous puissions voir encore cette semaine des grâces et des bénédictions à travers ce contact, ces relations que nous allons développer avec nos frères et sœurs. Merci pour tout. Amen.